Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Construisons l'avenir avec la poésie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'un jeune poète très prometteur. Falmarès est né en 2001 à Conakry et poursuit aujourd'hui des études à Nantes. En 2016, il quitte la Guinée après la terrible disparition de sa mère. Arrivé en Italie dans un camp pour migrants, il écrit ses premiers vers, puis il rejoint la France où il rencontre Joël et Armel Mandard des éditions Les Mandarines qui publient Soulagement en 2018, Soulagement 2 en 2020 et Lettres griotiques en 2021. En 2020, il reçoit le prix lycée de poésie de l'UNICEF. En 2021, il est sélectionné comme membre du jury et auteur invité par le festival Étonnant Voyageur. En 2023, il publie Silio Guinée aux éditions Yigi. Il est également ambassadeur de la paix et l'une des voix les plus prometteuses de la poésie contemporaine. Voilà ce que l'on peut lire au quatrième de couverture de Catalogue d'un exilé, un recueil de poésie. Falmarès était présent le 10 avril dernier à la librairie des Temps modernes pour une rencontre avec le public. Je vous propose donc d'écouter le témoignage et l'interview de Falmarès menée par Geneviève Guettem et permet d'avoir un tout autre regard sur l'immigration, l'exil, l'émigration, à l'opposé du mépris que leur réservent de trop nombreux médias. Bonne écoute.
Bien, bonjour à tous. Donc, je vais ouvrir cette session de rencontre et lecture consacrée à l'œuvre de Falmarès et plus particulièrement à son dernier recueil qui s'appelle Catalogue d'un exilé. Donc nous allons présenter rapidement son parcours et puis ensuite nous pourrons rentrer un petit peu plus dans le cœur du texte. Et pour ceux qui le souhaiteront, il pourra dédicacer l'ouvrage à la fin de la session. Donc, qui est Falmarès? Je ne sais pas si certains ont pu se renseigner avant. C'est vrai que c'est facile hein, de trouver son parcours. Il a son propre site internet. Il a maintenant une certaine visibilité. Donc, je vais le laisser nous rappeler les grands axes de, on pourrait dire, sa biographie. Et puis, on arrivera au livre, sachant que ce livre est le cinquième recueil. Alors, ce projet, oui, juste pour un petit cadrage, en fait, l'invitation à Falmarès fait partie d'un projet de recherche de l'université qui se consacre à une sorte d'inventaire des œuvres qui parlent de migration. Parce qu'on entend parler de migration constamment, à la radio, à la télévision, dans les médias sociaux, etc. Et en fait, on en parle de manière un peu unidirectionnelle, un peu, on va dire, abrupte et réductrice. Or, les migrants, mais aussi les artistes, ont une parole que nous n'avons pas l'habitude d'écouter. Donc l'objectif est de faire une sorte d'inventaire d'œuvres qui parlent de migration et nous avons souhaité commencer par la poésie qui occupe une place à part dans ces récits. Et il y aura d'autres sessions qui vont parler de cinéma et migration, qui vont parler de théâtre et migration et les artistes racontent leur migration à la première personne. Parfois, ils racontent la migration d'autres artistes. Et donc, Falmarès a lui-même vécu ce parcours. Il n'est pas le seul dans cette salle. C'est une expérience qui est beaucoup plus commune qu'on le pense. Et nous avons ici aussi une autre artiste, poétesse migrante qui pourra nous donner également un petit exemple de sa création tout à l'heure. Mais sans plus tarder, je laisse la parole à Falmarès qui va donc vous rappeler un petit peu qui il est et pourquoi il est là. Et ensuite, on passera à son ouvrage.
Merci Geneviève. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux que je n'ai pas dit bonjour ce matin. C'est très difficile de parler de soi. D'habitude, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile que quelqu'un d'autre parle de nous au présent, à notre place. Et voilà, d'une manière totalement modeste, j'ai 22 ans, je vis à Nantes actuellement. Je suis originaire de Guinée, un pays d'Afrique de l'Ouest, entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal au nord et le Mali. Et je viens d'une famille modeste. Donc j'ai quitté mon pays natal pour des raisons familiales. Et d'abord, il y a eu le décès de ma maman et ensuite des choses violentes un peu qui sont passées dans la famille qui m'ont poussé à l'exil. Voilà les raisons de mon départ. En passant par le Mali, le désert du Sahara pendant plusieurs semaines et l'Algérie pendant plusieurs mois dans un chantier de bâtiment et ensuite la Libye pendant plusieurs mois, la Méditerranée jusqu'à l'Italie. Et l'Italie, et ensuite j'ai décidé de venir en France pour des raisons linguistiques. Et France-Nantes, voilà un peu comme un catalogue, en quelques mots, en quelques phrases, mon parcours, et voilà, de Guinée jusqu'ici. Et voilà, j'ai commencé mon intégration à Nantes, Vannes, et ensuite Nantes, où je suis actuellement.
Voilà, donc un parcours n'est pas étranger à beaucoup de gens qui empruntent le même chemin. Maintenant, une arrivée qui est marquée par la poésie, qui permet justement de s'ancrer dans une culture et dans une société. Donc la poésie a un rôle à jouer dans notre environnement à la fois culturel, bien sûr, mais aussi social et politique.
Oui.
Comment est arrivée la poésie ?
D'abord, je ne connaissais absolument pas la poésie au départ quand j'étais en Guinée. J'ai fait tout mon collège là-bas. Et quand je suis arrivé en Italie, tout le parcours que j'ai fait, d'abord des choses familiales hein, qui restent encore dans la famille, le décès de ma maman qui a été quand même un événement très douloureux. Elle est morte en moins de 10 jours. Elle est tombée malade et puis elle est morte sans nous reconnaître, sans pouvoir rien faire d'elle-même. Et donc, elle pouvait absolument rien faire. Elle même se déplacer, prendre ses bains, faire ses besoins primaires, manger. Donc, elle est morte dans ces conditions-là. C'était assez douloureux. Et ensuite, les événements familiaux et le périple qu'on connaît aujourd'hui parce qu'on a tous Internet et où on a peut-être des amis. Donc on regarde des médias. Donc ce périple classique que moi j'ai fait, les violences physiques, psychologiques, verbales, et tout ça, quand je suis arrivé en Italie, je n'arrivais pas à dormir. Et c'est là où j'ai ressenti le désir de la lecture d'abord, qui m'a poussé à écrire. Et j'écrivais pour me lire et je me lisais, ça m'aidait à m'endormir parce que j'étais traumatisé. Et c'est comme ça en Italie que j'ai réussi à sortir un peu de ce trauma. Donc l'écriture, la poésie au départ pour moi, c'était pas une passion. C'était pour trouver le sommeil, pour oublier un peu entre guillemets, parce qu'on n'oublie jamais ces choses-là. C'est tous ces souvenirs douloureux qui ont duré quasiment une année. Donc tout, c'était à l'âge de 15 ans, c'était assez trop pour moi. Et ensuite, quand je suis arrivé en France, j'ai découvert vraiment la poésie, la littérature d'une manière générale, pas que la poésie, à travers les bibliothèques. Et là, à travers les gens aussi, les rencontres que j'ai faites physiques, les rencontres avec les livres, la poésie est devenue une passion pour moi.
Je voulais revenir sur ce que vous nous disiez tout à l'heure concernant justement ces espaces qui sont évoqués à chaque fois à la fin des poèmes, les différents lieux et puis les espaces que vous évoquez aussi donc, dans les poèmes en Afrique, en France, cette question de l'espace, du territoire. Ce qui unit justement tous ces lieux, c'est vous, c'est le poète en fait, et notamment l'espace de la poésie, le territoire de la poésie. Est-ce que vous pourrez nous parler de cette rencontre, même si vous l'avez fait en introduction de tout à l'heure, parce que vous dites que ce n'est pas vous qui avez découvert la poésie, c'est la poésie qui est venue vous voir.
Et toutes ces rencontres à la fois avec les livres littéraires réels et imaginaires, donc si on peut le résumer en deux mots. Et voilà, sont faites ainsi parce que quand je suis arrivé en France directement, je me suis dirigé vers les médiathèques parce que à ce moment-là, j'étais quand même très timide. Je n'osais pas aborder les gens, je n'osais pas parler aux gens. Donc, comme les bibliothèques, médiathèques sont gratuites, et je partais tous les jours dans les médiathèques, lire, écrire. C'est comme ça, en fait, que j'ai vraiment découvert la littérature d'une manière générale. Et voilà, et je lisais pas que la poésie, je lisais aussi des romans, du théâtre, des essais, aussi la philosophie, etc. J'ai la rencontre avec certains auteurs, certains auteurs qui m'ont beaucoup plus marqué dans les livres, et aussi les rencontres physiques. Mes premières rencontres, je me souviens, en France, je les ai faites dans une médiathèque, tout simplement. Et une rencontre avec un livre que je racontais tout à l'heure, d'ailleurs, dans mon introduction. Je me souviens quand mes premiers éditeurs sont venus me proposer pour publier mes premiers poèmes. C'était dans une commune à côté de Vannes, à cette époque. Et j'étais mineur à ce moment-là. Donc, le contrat a beaucoup traîné. Et parce que je ne pouvais pas signer le contrat et que j'étais sous la responsabilité du département, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance. Et comme tous les jeunes qui arrivent en France, qui ont moins de 18 ans. Et un jour, comme ça a beaucoup traîné, j'ai pris le téléphone pour appeler l'ASE. Et j'étais avec l'adjointe de ma titrice au téléphone. On a discuté pendant plus de 30 minutes. Elle me répétait sans cesse, il faut attendre tes 18 ans, c'est mieux, c'est compliqué. Il y a une chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai dit, madame, Blaise Pascal a inventé la machine à calculatrice à l'âge de 16 ans pour aider son papa qui travaillait dans la comptabilité. Imaginez s'il n'avait pas fait ce travail-là. Vous, avec tout ce travail que vous faites dans la comptabilité, le monde entier qui utilise la machine à calculatrice aujourd'hui. Et si Blaise Pascal n'avait pas inventé cet outil, comment vous, madame, vous auriez fait tout le boulot que vous faites, tout le travail acharné que vous faites? Et comment les millions de personnes, des milliards de personnes au monde feront? Et je ne me suis pas limité là. Elle était stupéfaite. Je ne me suis pas limité là. J'ai cité aussi Arthur Rimbaud. J'ai dit... voilà. Et quand est-ce que vous connaissez Arthur Rimbaud, madame? Elle m'a dit oui. Si vous prenez 10 plus grands poètes français, vous allez forcément citer Arthur Rimbaud parce que il a une place incontournable de la poésie. Il a bouleversé la poésie française, le regard sur la poésie pour différentes raisons. Et là, elle m'a arrêté, elle m'a dit, je soutiens ton projet, Et je vais demander à ta tutrice de signer le contrat. Et là, 2 jours après, mon contrat a été signé et mon livre, mon premier livre a vu le jour. Donc, c'est... j'avais 16 ans quand j'ai publié mon premier livre. Et donc, c'est des choses, c'est mes rencontres aussi avec le livre qui m'ont permis de, voilà, de donner ces exemples-là. Et peut-être de changer aussi. Peut-être que moi, si ça n'a pas été le cas, peut-être que je n'aurais pas publié, je n'aurais pas peut-être produit autant. Parce que j'ai eu quand même beaucoup d'encouragement de mes premiers éditeurs qui sont passés d'ailleurs ici, vous m'avez dit tout à l'heure, qui sont passés dans cette librairie, les éditions Les Mandarines, donc qui m'ont beaucoup soutenu et qui m'ont encouragé à écrire plus.
Voilà, donc passer beaucoup de temps en bibliothèque. La bibliothèque comme un refuge et la poésie comme une sorte de bouée de sauvetage qui a permis d'écrire un premier recueil et puis d'abord aussi de rencontrer des éditeurs et d'en être au cinquième. Et le mot catalogue a été énoncé au début, c'est le titre de l'ouvrage. Donc, catalogue d'étapes dans le parcours, mais aussi catalogue de lieux, donc passer de l'Italie à la France, de Paris à Nantes, à Vannes et repartir. Donc on a dans le livre un ensemble de... On pourrait dire que c'est un recueil qui présente une liste ou des listes. Et cette idée, est-ce que c'est une lecture possible d'envisager cet ouvrage comme un travail d'inventaire?
Oui, je pense. Sincèrement, parce que d'ailleurs, la préface, mon préfacier Nimrod, le premier vers qu'il cite, la première strophe, il dit... voilà, il me cite, il dit « Au départ, ô berceuse, ô village, exil, je songe au parfum, je songe à toutes choses, et l'arbre dans la bibliothèque faisant la liste des choses imaginaires, semblable à une prière muette. » Donc, c'est peut-être, voilà, cette liste des choses imaginaires, à la fois réelles aussi, et qui est là dans ce catalogue. C'est à la fois en fait les rencontres aussi, les hommages à des personnes qui sont là, à des rencontres imaginaires avec les livres que j'ai faits, à des lieux aussi, le nom des lieux, les dates, et aussi aux souvenirs aussi. Mm-hmm. Parce que pour moi, ça ne se limite pas en fait, ce catalogue d'un exilé. Voilà, c'est peut-être la liste du parcours, etc., la liste de plusieurs choses. Mais pour moi, ça va au-delà de ça, tout simplement.
Justement, dans cette liste, il y a des objets un peu emblématiques. Et il y a l'objet Cora. Et je me demandais si on ne pouvait pas lire ce poème qui... alors, peut-être qu'il est... Bon, on n'est pas obligé... Voilà. Va donner une idée à la fois de l'objet et en même temps de son usage et de son intensité à la fois réelle et imaginaire. Est-ce que c'est possible de le lire?
Avec grand plaisir. Koba. Je me rappelle ce pays à fleurs d'encre, à fleurs d'oiseaux cheval gelé, ce pays à la bouche mielleuse qui m'a enfanté d'une douleur d'arôme et de fruits amers et sucrés salés. Je me rappelle et ses quartiers et ses districts et ses ports sont plus chers à mon âme. Pays, j'ai passé des lunes et des lunes près de toi. Oh oui, que c'était l'âge d'or des rivières du sud. Alors, j'aime ce pays de crevettes et de crabes. J'aime ce pays, oh, une sorte de crabe géante et salée. J'ai ce souvenir dans la bouche, car c'est la sauge vivante dans les profondeurs de la chair de ma chair, car c'est la passion sans mesure ni géométrie. J'aime ce pays à la virginité dansante, ce pays à l'ivresse griotique des saisons, car c'est le rythme dansant des ancêtres.
Donc là, alors, ce qui est important, c'est la notion de rythme. Donc la koba, c'est un instrument, c'est un lieu, et en même temps, enfin, il y a tout un univers là qui est à la fois musical et comment dire sensuel. C'est toute une mémoire.
Oui, absolument. Il y a les deux en fait, les éléments principaux, je dirais. Il y a le lieu qui est koba. Il y a l'instrument qui s'appelle la kora, justement, qui est d'abord, c'est deux éléments aussi importants personnellement dans ma vie. Kora, c'est l'instrument phare des griots. C'est semblable ici à une harpe. C'est un instrument à cordes, ce qu'on appelle des cordophones. Et chez les griots, et c'est son instrument en fait de musique. Il y a aussi le ngoni, il s'appelle aussi ngoni. La différence est que c'est les différences de cordes, le nombre de cordes en fait, kora et ngoni. Et le griot, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut le dire, si on fait en fait la similitude avec l'Occident, on peut le dire c'est l'aïde. L'aïde, chez les Grecs anciens, c'est des poètes comme des troubadours qui vont de ville en ville en chantant leurs poèmes, accompagnés de la musique, accompagnés de leurs instruments de musique. Voilà, le griot a aussi ce rôle-là. Il est à la fois chanteur, musicien, historien. Il est aussi conseiller des rois. Donc, il a de multiples chapeaux à la fois. Donc, c'est cette partie parce que moi, je viens d'une famille de griots, de par mon papa. Et donc, il y a ça aussi. Mon grand-père paternel était aussi griot. Et la deuxième chose, qui est Koba, le lieu que dans certains de mes poèmes, d'ailleurs, Soulagement 2, le deuxième recueil que j'ai publié, je fais beaucoup de similitudes entre cette région, cette ville Koba et la région de la Bretagne. Parce que pour des raisons évidentes, il y a pour moi, comme tout ce que je liste, les éléments, la mer, les fruits de mer, l'exotique un peu, l'océan Atlantique, l'extraction du sel, la région un peu avec un climat un peu océanique. Il fait ni très chaud ni très froid. Il y a la pêche, l'agriculture, etc. Ce sont des éléments que je retrouve aussi en Bretagne, qui sont dans cette ville. Et aussi, en plus de ça, la personne dont je dirais qui m'inspire beaucoup plus, qui m'a beaucoup inspiré, ma grand-mère maternelle, était, comme voilà, toute ma famille d'ailleurs, est originaire de cette région. Donc c'est avec ma grand-mère j'ai beaucoup appris, et d'ailleurs qu'on retrouve souvent dans certains de mes poèmes. Et donc c'est très important pour moi, ces deux éléments-là. Cette ville et cet instrument de musique, en un mot.
Oui, donc l'instrument de musique et parfois, bon, enfin, vous le verrez en regardant, mais les strophes sont placées de façon à créer aussi un rythme dans la page et à produire à la fois une sorte de... Bon, c'est un poème sur la marche et c'est comme si on voyait les pieds qui avançait, comme si on avait ces deux jambes, enfin ces deux la marche et la migration, et puis aussi le rythme du poème, les déplacements des troubadours, enfin tout ça se retrouve. Donc il y a un certain nombre de thématiques comme ça qui se retrouve. Alors la marche, c'est soit par rapport au déplacement géographique, mais c'est aussi en relation avec la fatigue. Donc c'est pas toujours, enfin, à chaque fois il y a toujours un côté positif, négatif. Est-ce qu'on peut, on peut voir ça dans presque tous les poèmes, ou certains sont très positifs, d'autres ou est-ce qu'il y a toujours ce côté un petit peu ambigu et double?
Oui, bien sûr. J'essaie d'être sincère avec le lecteur et avec ce que j'écris avant tout. Pour moi, c'est un élément très important, peut-être le plus important, la sincérité dans l'écriture, dans ce que je fais. Et donc, il y a ce côté, parfois ambigu de certains poèmes. Mais j'ai dit tout à l'heure que il n'y a pas que ça, en fait. Pour moi, c'est simplement catalogue d'un exilé, la poésie, hein, d'une manière générale, la poésie de l'exil, la littérature de l'exil. Ce n'est pas seulement, quelque chose de la douleur, et ce n'est pas seulement de la souffrance. Et la poésie, la littérature se doivent de magnifier la beauté, de trouver en fait l'espoir aussi en l'univers. Et pour moi, ce catalogue d'un exilé, ça va au-delà en fait de cette condition d'exilé qu'on... Voilà, et il y a des choses que je souligne bien évidemment d'une manière concrète. Mais pour moi, une personne qui quitte un pays pour un autre, une personne qui est en exil, qui a fait ce parcours douloureux, je sais que c'est pas facile. Mais voilà, et on peut aussi aller au-delà de cette condition d'exilé. Ce n'est pas seulement des questions administratives. Parfois, c'est dur d'obtenir un titre de séjour ou même s'intégrer dans une société, apprendre une langue et apprendre les codes. Mais il faut, à un moment donné, aller au-delà de ces questions-là. C'est-à-dire, pour moi, catalogue d'un exilé, ce n'est pas seulement... Les grandes questions, l'obtention d'un titre de séjour, etc., plusieurs choses, ça va au-delà. C'est aussi des choses simples aussi. Pour moi, peut-être que c'est le message le plus important, c'est aussi aller vers les choses simples, rencontrer l'amour, faire des amitiés, aller boire un coup, aller courir, observer un jardin. C'est aussi une invitation aux choses simples, pas seulement des choses douloureuses.
D'ailleurs, on l'a dans... Voilà, quand on peut lire « J'arrache en moi tous les esprits défaitistes » ou alors « Entre l'exil et moi, je lève mon verre ». Il y a quelque chose de l'ordre de la célébration. Et puis, une manière de prendre les choses à revers, à rebours. Donc, au lieu de dire « Je suis un migrant », il dit « Je ne suis pas un migrant ». Et ça, c'est le premier poème du recueil qui, à mon avis, présente bien cette posture qui... prends note, on arrive quelque part et il faut se poser. Mais en même temps, il y a une volonté de reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases. Et donc, prendre les choses à l'envers. Et je ne sais pas si on peut avoir un petit moment de présentation de ce texte.
Je ne suis pas migrant. Je ne suis pas migrant, je ne suis pas exilé, je ne suis pas homme de couleur. Je suis un enfant de tous les pays. Je suis un être de bâtonnet, semblable au vin panaché du pays, semblable à la canne à sucre, semblable au ballet dansant de l'oiseau griot. Je ne suis pas migrant, pas étranger, pas même apatride, ni diaspora, ni expatrié, ni réfugié, ni même immigré. Je suis un petit corbeau des mers en ébullition, un champ hybride en labour, un haillon d'écorce en résolution, un semer de blé, de coton, de riz pour le petit manuscrit des peuples. Je ne suis pas demandeur d'asile, ni sans papier, ni sans carte d'identité de ma langue d'alcool. Oh, je suis cet enfant qui a marché saison après saison, à la recherche d'un refuge. Je ne suis pas migrant, je suis une lueur de colombe, une flamme de liberté, une ténacité d'acier, un rêve en marche. Oh, je ne suis pas migrant. Je suis un homme libre. Le monde est mon pays. La terre est ma demeure.
Oui. Donc, c'est toujours, c'est très émouvant. Et
je vous propose de marquer une courte pause musicale avec Jupiter, This World Is My Land.
Ich bin ein Berliner, the world is my land. Ich bin ein Kongolese, the world is my land. Ich bin the world is my land. Keke Mugawa, keke na kusosa mambu, keme zola nini. Ich hab in Ost-Berlin gewohnt. In Weizensee Weg 2, Nummer 0303 in Deutsche Demokratische Republik, DDR. Und ich will auch sagen, was ich hab da gesehen. Immer in Straße, die kleinen Kinder sagen in ihrer Mutter: Mama, Mama, guck mal die Neger. Ja, ich bin Neger, aber du bist Kartoffel.
Kartoffel!
Quand j'étais gamin, je vivais à Berlin-Est, RDA. Le petit blanc qui me voyait passer disait à leur maman: Maman, maman, regarde les nègres. Nègre, oh, peut-être, mais moi, je passais le mur deux fois par jour. Ich bin ein Berliner, the world is my land.
Deutschland is my land.
Ah.
Congo is my land. Frankreich is my land.
Quelqu'un va voir. Jetzt ich bin bei mir. Mein Kongo ist wunderbar, aber hat viel Problem Politik. Und die kleine Kind hat nicht etwas zu essen. Ich bin eine Kongolese. The world is my land. The world is my land.
Is my land.
Entendu, ce travail de rythme, et puis il y a des sonorités qui reviennent, le O revient très très souvent et qui est sous différentes formes. Soit c'est le O, la lettre O, soit c'est le lettre O avec l'accent circonflexe, soit c'est OH. Alors pourquoi ce O, qu'est-ce qu'il signifie?
C'est souvent dû au changement de rythme aussi. Et une deuxième chose, c'est aussi de souligner aussi la liberté en fait de l'écrivain, plus particulièrement du poète, parce que ce qui caractérise quand même la poésie, peut-être, je pense que la différence entre la poésie et les autres genres littéraires, c'est que la poésie, c'est un genre littéraire plus libre, beaucoup plus libre que peut-être la liberté, parce que le poète peut se permettre de tout. Et c'est aussi de jouir de cette liberté en écrivant, en jouant avec des mots, en jouant avec parfois des tout simplement les hauts.
Et il y a d'autres jeux, il y a énormément d'inversions, comme cet instant qui coule et passe, passe et coule, etc. Et on retrouve régulièement ce jeu de répétition avec retour. Alors, est-ce que c'est une manière aussi de refuser la logique d'une rupture, à savoir que la répétition permet d'éviter d'arrêter la phrase. On reprend les mots comme si on ne voulait pas, on voulait pas mettre de point final.
Oui, il y a une double signification. Il y a à la fois ce côté de la poésie en particulier qui dit. Voilà, et la répétition, elle est permise, tout est permis d'ailleurs. Mais la répétition permet aussi de souligner certaines choses, d'accentuer en fait, d'insister sur, d'accumuler même parfois certaines choses. C'est-à-dire de montrer au lecteur, ça c'est important pour moi, ça c'est important pour moi. C'est comme, par exemple, je ne suis pas migrant. Et il y a aussi une deuxième partie en fait, ces répétitions, c'est aussi constamment ce qu'on retrouve dans plusieurs de mes poèmes, les va-et-vient à la fois entre le pays d'accueil et le pays natal aussi, parfois une sorte de tournée en fait sur soi-même quelquefois parfois.
Et alors bon, ça demande une lecture un peu plus, enfin, de prendre un peu plus de temps, mais je voulais revenir. Bon, là, j'ai parlé des inversions, mais si on regarde l'intérieur des poèmes, il y a tout un ensemble de rimes qui ne sont pas systématiques, mais qui reviennent. Bon, là, par exemple, pour Testament, il y a « Je marcherai dans l'aride désert » et un peu plus loin, on a « Je traverserai le ventre de la mer, belle et en grande colère », donc mer, colère, etc. Et puis après, on a même parfois des « i » qui reviennent, des « r », des « ou ». Tout ça, ça se répond et c'est pas la rime d'un sonnet du XVIe siècle, mais on a, alors parfois on a des rimes riches, érotiques et griotiques. Je trouve ça assez intéressant parce que la poésie comme quelque chose de sensuel, de valeur. Mais on a à l'intérieur d'un même vers, on a le bleu dans les yeux et puis la chose anonyme et donc O, I et juste après on a le mot et Marie. Donc, ces reprises de sonorité accentuent encore cette, on a les cloches là, mais cette approche sonore de la poésie. Donc, en termes de construction, comment ça vient ces choses-là ? Quel est le travail de fabrication des vers ?
C'est un travail long, assez long et... Qui prend énormément de temps. Il paraît, quand on voit un poème comme ça, on peut dire ça c'est facile. Ou peut-être j'avais même l'impression de l'avoir dans ma tête. Mais parfois, c'est des choses qui mettent beaucoup, beaucoup de temps à sortir. Moi, avant d'écrire un poème, j'y pense énormément. J'y pense énormément à ce que je souhaite écrire. Quand bien même j'écris, parfois il y a des poèmes assez courts qui me prennent toute une journée. J'écris, je réécris, je lis à haute voix à ma fenêtre. Je réécris, je déplace un mot, je le ramène à la fin. Un vers, une strophe, je le déplace quasiment. Donc C'est un travail en un mot de longue haleine. Ça me prend énormément de temps. C'est en quelque sorte jouer avec les mots, jouer avec les strophes, les vers et aussi essayer d'utiliser le bon mot au bon endroit, la bonne strophe au bon moment, en fait. C'est tout un travail de mais c'est aussi une poésie aussi griotique. Une poésie griotique, pour moi, c'est une poésie avant tout de la célébration qui chante. Il y a Senghor, Léopold Sédar Senghor, qui définissait la poésie selon les Peuls que ce sont des paroles plaisantes à l'oreille et au cœur. Chez les griots, c'était des chants, les paroles qui plaisaient à l'oreille et au cœur. C'est comme ça Senghor définit la poésie. Et pour moi, c'est avant tout ça, d'abord. La poésie, c'est la beauté avant tout. Sans la beauté, il n'y a pas de poésie.
Oui. Et donc là, se pose le problème de la langue. Et c'est vrai que dans l'introduction, Nimrod dit que le français devient une langue africaine. Alors, que le destin de la France est africain, même. Alors, que pensez-vous de tout ça ? Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu, enfin qui était conscient dans la réalisation de ce texte, ou non, c'est juste une sorte de fluidité de langue qui fait partie de à la fois du parcours de migrant, mais aussi de votre enfance ?
C'était pas l'enfance, tout ça est né en fait d'ici, ici. Et, complètement, quand Nimrod dit ça, que le français, considérant maintenant le français comme une langue africaine, je suis assez d'accord avec lui, parce que il y a tout à fait une dimension historique d'abord, mais aussi il y a une réalité en fait. Donc cette dimension historique qui donne une réalité, sachant quand même qu'on a à peu près 15-16 pays en Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest, qui parlent le français. Ça, c'est une réalité. Donc, il y a beaucoup plus de personnes en Afrique qui parlent le français qu'en France. Donc, ces pays-là sont des francophones, à part entière. Et voilà, ils manient bien la langue. Hein, il suffit juste de lire Senghor pour... On n'a même pas besoin de lire Senghor. Il suffit juste de lire Nimrod, qui est vivant, pour savoir il y a des bons grammairiens en Guinée, au Sénégal, qui peuvent tout à fait être au même pied d'égalité qu'à Paris, à Orléans. Donc d'une part, il y a ça aussi. Les Africains se disent aussi d'accepter cette langue qui s'est imposée en eux, et l'apprendre comme aussi une part de leur destin, et de se l'approprier et de s'exprimer aussi. Beaucoup dans ces pays-là, comme c'est la langue de l'école, beaucoup de gens écrivent dans cette langue, quasiment les 99,9%. Donc c'est voir la dimension, en fait, la dimension. Et d'une part aussi, il y a ce côté langue, ce côté aussi historique, mais il y a encore des choses qui sont présentes aussi dans les relations entre la France, pas que la France, et ces pays d'Afrique aussi. Il y a ces dimensions-là qui sont là, et même si parfois... Il y a des embrouilles, ils se chamaillent entre eux. Ça c'est pas poétique, c'est les politiques de gérer ça. Mais donc il y a des réalités qui sont là, linguistiques aussi, géopolitiques, historiques et tant d'autres aussi, culturelles aussi. Dans ces programmes scolaires de ces pays-là, on apprend beaucoup d'auteurs francophones, français principalement, et Victor Hugo, Camus et Proust, Dumas, etc. Donc on a aussi une connaissance aussi étant là-bas, une certaine connaissance, même s'il y a des fausses idées hein, du pays, de la France, de la culture, du fromage, du vin, du champagne, etc.
Là, ça, on a une sorte de glissement vers des valeurs. Entre la dimension nationale et la dimension poétique, certains considèrent qu'il n'y a rien de plus anti-identitaire que la poésie. Est-ce que justement la poésie, en termes de brassage, permet de dépasser ces cloisonnements et comment est-ce que ça a été est-ce que c'est quelque chose qui était constamment dans ton esprit quand tu étais en train d'écrire ou parce que on a justement énormément de références à beaucoup d'auteurs, des auteurs français, des auteurs classiques, et puis des références au contraire plus locales. Donc comment tout ça s'est construit d'un point de vue justement pour relier peut-être, parce qu'il y a une dimension politique dans la construction poétique.
Oui, d'autres diront. Après, on a tous, quand on lit quelque chose, quand on regarde un film, ou etc., quand on lit, on a un avis personnel et les choses peuvent être personnelles et c'est important que chacun ait un avis. Et d'autres peuvent dire qu'il y a la politique partout, etc. Et c'est leur avis personnel et tant mieux. Mais moi, je suis tout à fait optimiste dans le sens où l'art, d'une manière générale, la poésie en particulier, c'est des choses qui rassemblent et qui nous ressemblent aussi. Parce que la poésie, c'est quand même la forme la plus ancienne. La forme la plus ancienne de l'art que nous avons, de la littérature que nous avons. Dans l'étude de la poésie, souvent, les gens commencent au Moyen-Âge, mais il y avait bien l'Antiquité. Hein, il y a des poètes comme Homère et Hésiode hein, qui ont existé. Et en Afrique, il y a des poètes, même si on le connaît vers le Moyen-Âge, vers le 15e siècle, Donc, le 5e et le 15e siècle, on connaît ces poètes-là, les griots, ce qu'on appelle les griots. Donc, c'est le rôle des griots, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui transmettaient en fait la mémoire du clan, d'une manière générale. Donc, c'est des gens qui rassemblaient, c'était des gens aussi, des diseurs de paix aussi, des grands leaders de paix en Afrique, qui cherchaient à tout prix éviter des conflits aussi entre une famille, entre une femme et son mari, entre un père et son fils, entre un roi et son subordonné à cette époque, entre deux peuples. Donc c'était des ambassadeurs de la paix avant tout, ils transmettaient aussi la mémoire du clan. Et la poésie, on a connu quand on lit l'histoire de la poésie, de l'art en général, la poésie n'a pas pour but de créer des conflits. Au contraire, c'est un art qui rassemble, qui chante. Et je pense que le plus grand poème, c'est des poèmes qui sont sans conflit en fait, qui vont au-delà de ça. Même si la poésie, même si elle est engagée, et c'est des poèmes qui à la fois parfois disent nos soucis personnels, les soucis personnels, les soucis des peuples, mais le poète, il est toujours aux côtés des peuples, aux côtés des gens qui sont opprimés, des gens qui n'ont pas souvent la parole. Et les poètes ont toujours été là, en fait, dans les situations d'amour et dans les situations de guerre aussi.
Alors peut-être que pour illustrer ça, et puis peut-être une dernière chose dans ce catalogue, les poèmes, je suppose qu'il y a eu une construction dans leur disposition et ils sont tous datés et associé à un lieu, Nantes le 3 juin, Nantes le 1er juin, Nantes, et puis après on passe à Vannes, et puis on revient à Nantes, et puis après on va il y a d'autres lieux en octobre, voilà, c'est ça. Et est-ce que c'est possible de parler un petit peu de ce choix d'indiquer la date et le lieu? Est-ce que c'est comme un journal?
Oui, il y a ce côté catalogue, journal, etc. Il y a aussi, mais il y a surtout ce côté voilà, et qui éphémère dans le sens où il faut savoir, quand j'ai commencé à composer ça, je crois il y a des poèmes qui datent de 2019, 2020, etc.
2017 même, Bolzano.
Voilà, 2017, c'était des moments... voilà, j'avais aucune idée de ma situation. Ma situation, mon statut, etc. Administrative, etc. Ma vie en Europe. Et, donc, je suis, voilà, à chaque moment où je passais à un endroit... J'essayais de noter en fait le nom de la ville et j'ai gardé cette habitude. Et cette habitude qui... voilà, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va arriver demain. Donc je notais en fait la date et le nom des lieux en fait. C'est comme ça que j'ai commencé à faire ça. Et voilà, parce que je ne savais pas qu'est-ce qui se passait demain. Et il fallait laisser un peu de... Voilà, et mes souvenirs des endroits où je suis passé, oui, etc. aussi, et ces moments-là aussi, parce que quasiment, je pense qu'il n'y a pas un poème qui a été écrit par hasard dans ce recueil. Tous ces poèmes ont des petites histoires hein, dans ce catalogue d'un exilé.
Donc, Nantes, à la médiathèque Jacques Demy, 12 juillet 2021, c'est quoi l'histoire?
Bah, c'est des poèmes qui viennent d'une nécessité. En fait, c'est je pense que c'est le 2, parce qu'il y a aussi un autre poème qui a le même titre, Éloge aux poésies, qu'on a lu tout à l'heure. C'est la suite de l'autre. Chaque poème vient parce qu'il y a une nécessité. Je ressens le besoin en fait nécessaire de l'exprimer à ce moment-là par rapport à quelque chose en particulier que j'ai vu qui m'a frappé ou à quelque chose qui s'est passé à moi, qui s'est passé dans ma tête ou des souvenirs. Je ressens en fait cette nécessité d'exprimer ces mots-là et c'est comme ça que je l'exprime. C'est comme ça que j'ai exprimé en fait tous ces poèmes.
Donc, refus de la rupture, refus de la séparation et de la frontière, mais en même temps, peut-être une volonté de rester dans la frontière, de s'y trouver et d'en jouer, de faire travailler cette frontière, de lui donner une épaisseur, de montrer toute sa qualité. Parce que quand on est migrant, on est parti, mais en même temps, est-ce qu'on n'arrive jamais? C'était Leonardo tout à l'heure qui disait voilà, je suis migrant et je le resterai toute ma vie. Donc le départ, est-ce qu'il signifie une arrivée et est-ce que la poésie, c'est pas justement un espace intermédiaire?
Oui, c'est en tout cas c'est ça, et la poésie comme l'art ou d'autres formes d'art peuvent être pour d'autres personnes, c'est un refus quand même. C'est un refus. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé à écrire en Italie pour trouver le sommeil. En tout cas, voilà. Donc, c'est aussi se cacher aussi. Mais en même temps, on se dévoile parce que quand on lit ce que j'écris, voilà, on peut, quand on lit un auteur, on le connaît. D'ailleurs, la meilleure façon de connaître un auteur, c'est de le lire, parce que là, il peut pas mentir. Il se dévoile, il se donne à fond. Et la parole qu'on donne peut trahir, mais quand on écrit, on passe du temps à réécrire, donc on a suffisamment le temps de réfléchir. Et quand on dit des choses instantanément, on peut dire, ah, demain, je n'aurais pas dire ça à la librairie Les Temps Modernes. Donc, on peut avoir des regrets, mais quand on écrit, on a moins de chances d'avoir ça parce qu'on a le temps de penser, parfois même de repenser. Et donc, l'exil, peut-être que c'est aussi un privilège de... pas totalement à la fois de découvrir plusieurs cultures, d'être à la fois, ça peut être dur d'être tiraillé entre le pays natal et le pays d'accueil. Et rencontrer le choc parfois, ça peut être un choc culturel, un exemple tout simple et qui peut vous choquer. Hein, vous, en Guinée, par exemple... Quand vous faites à manger, quand vous préparez la nourriture et quand vous sentez la nourriture, les gens ne vont pas manger. Ils vont refuser en fait ce que vous avez préparé. Et ici, c'est tout à fait normal de sentir l'odeur de la nourriture. Et ça, je l'ai appris ici. Au départ, ça m'a choqué en fait. Ça me choquait au départ. Et pour un Guinéen, il va pas manger si vous faites ça. Donc, c'est parfois des chocs culturels, des rencontres avec des manières de faire, des manières de vivre, des manières de dire qui sont parfois différentes d'un endroit à un autre. Et je disais tout à l'heure, l'exil, quand même, c'est quand même une ouverture, une forme d'ouverture. Parce qu'en s'exilant, on accepte de perdre un peu de soi en prenant un peu chez l'autre. Donc, dans ce sens... Voilà, on dit, on réfléchit, on dit finalement, ce n'est peut-être rien. On peut sentir tout à fait une nourriture à manger. Ça. Et donc, on peut prendre un peu chez l'autre. Et voilà, en charichissant peut-être. Et voilà, en gardant. C'est une forme d'ouverture en acceptant plus certaines choses. Donc l'exil, c'est aussi une forme d'ouverture, une forme de découverte. Et pas seulement littéraire, pas seulement des auteurs, des exemples avec des auteurs, mais aussi des cultures, des gens aussi. La manière dont ils parlent, la manière dont ils font les choses, ils vivent, etc., tout simplement.
Voilà, donc une de ces pages dit « J'ai perdu un pays, mais j'ai gagné un songe ». J'ai perdu un songe et j'ai gagné un songe. Ce gain et perte qui serait au cœur de l'exil et au cœur de la poésie. C'est peut-être une conclusion. On verra de quelle façon on peut le penser. À vous de lire le livre maintenant et puis de faire votre propre chemin de poésie et peut-être de rencontre. Merci.
Cette émission est terminée. Je ne peux que vous inviter à aller sur la page de la librairie Les Temps Modernes à Orléans pour avoir le programme de toutes ces rencontres que la librairie organise régulièrement afin de favoriser la diffusion des œuvres littéraires ainsi que leurs idées portées par leurs auteurs et autrices. À très bientôt. Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens, la rédac pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La rédac pop de Radio Campus Orléans.